à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique du hérisson sur CFM Radio, votre rendez-vous mensuel avec celles et ceux qui vivent et défendent la nature au quotidien. Une émission proposée par France Nature Environnement Tarn-et-Garonne pour donner la parole à celles et ceux qui cultivent autrement, pensent autrement et osent remettre du vivant au cœur de leur territoire. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des mobilités douces, et plus particulièrement le cas du vélo. Cette façon de se déplacer, respectueuse de l'environnement et aux multiples bienfaits, se développe de plus en plus, particulièrement dans les grandes villes de France. Mais qu'en est-il dans le Tarn-et-Garonne? Quels aménagements et quelles infrastructures sont indispensables pour favoriser cette pratique? C'est ce que nous allons voir, alors installez-vous confortablement, le hérisson est de sortie.
Madame Nature est belle, Madame Nature est sauvage, Madame Nature s'appelle la terre sur laquelle vivent des sauvages. Madame Nature est belle, Madame Nature est sauvage, Madame Nature s'appelle la terre sur laquelle vivent des sauvages. Madame Nature est belle, Madame Nature est belle.
Bienvenue dans la chronique du hérisson. Pour le mois de mai, on va s'intéresser aux mobilités douces et plus particulièrement au vélo. Et aujourd'hui, j'accueille trois membres de l'association Monte à Vélo. On commence par Sophie Orissé. Bonjour Sophie.
Bonjour.
On continue avec Ludovic Grondin. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Laurent Pambaguian.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être présents pour répondre à mes questions. Tout d'abord, je vais vous laisser un petit peu parler. Est-ce que vous pourriez présenter l'association Monte à Vélo? Quel est le but? Quelles sont les missions de cette association et quels sont vos rôles au sein de cette association?
Je vais me présenter. Donc moi, je suis Sophie, 30 ans. Donc je suis membre du bureau de l'association Monte à Vélo depuis 6 mois. Et avant d'arriver sur Montauban, je n'utilisais pas beaucoup le vélo. Et c'est depuis que je suis arrivée, pour moi le vélo c'est un moyen vraiment de déplacement pour aller au travail. Donc voilà, je combine le vélo et le train pour me rendre par exemple sur Castelsarrasin. Et le reste du temps, j'utilise le vélo pour des courses ou des loisirs.
Moi je suis Ludovic Grondin, j'ai aussi la trentaine. J'ai grandi en Alsace, donc pour moi le vélo ça a toujours été un moyen de déplacement relativement simple. Et c'est qu'une fois que j'ai quitté l'Alsace que j'ai compris que c'était une chance et que j'ai décidé de rejoindre des associations pour la défense du vélo, parce que c'est un mode de déplacement qui doit être défendu.
Et donc moi j'ai une expérience différente, je suis un petit peu plus ancien. J'ai vécu 22 ans aux Pays-Bas, où j'ai découvert la culture du vélo, où j'ai découvert des infrastructures qui étaient extrêmement bien faites. Et quand je suis arrivé sur Montauban il y a 4 ans, j'ai été négativement impressionné par ce qui existe sur Montauban. Et donc j'ai décidé de rejoindre l'association Monte à Vélo, donc qui s'est montée en 2019, sous l'égide de la ville. La ville voulait une association de cyclistes pour développer un réseau cyclable. Et donc l'association Monte à Vélo est née à ce moment-là. Et on a un certain nombre de missions qui sont d'une part de l'éducation par rapport à des adultes. Donc on apprend à faire du vélo à des adultes. Co-construire avec la municipalité les infrastructures qui sont nécessaires. Donc développer le réseau avec la municipalité. Communiquer. Et on a une toute nouvelle commission qui est une commission pour développer un moyen de locomotion pour des gens en situation de handicap. Et donc on est sur le point de se faire livrer un vélo qui pourra transporter une personne handicapée. Donc ça c'est les quatre... Et j'ai oublié, on a un atelier d'autoréparation aussi qui permet aux gens d'apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo et de devenir plus indépendants.
Alors, pour commencer un petit peu cette interview sur les mobilités douces, est-ce qu'on pourrait tout d'abord parler un petit peu des mobilités de façon générale? Par exemple, donc aujourd'hui, quels sont les principaux moyens de transport qui sont utilisés par les Tarn-et-Garonnais?
Aujourd'hui, c'est la voiture qui est le mode de déplacement le plus utilisé. C'est à peu près 80% des déplacements. Il faut savoir que dans le Tarn-et-Garonne, on est le cinquième département où on a le plus de voitures par ménage. Environ 45% des ménages qui ont au moins deux voitures.
Et d'un autre côté, donc je vais faire part de mon expérience. Pour aller au travail, par exemple, je vois de plus en plus de vélos taffeurs. Donc, on appelle les vélos taffeurs les gens qui se rendent au travail en vélo. Et donc, sur mon trajet, en fait, je vais du centre-ville jusqu'à la gare et inversement. Et en effet, j'en vois de plus en plus. Il y a notamment une ligne de train qui relie Toulouse à Agen en passant par Montauban et qui sert beaucoup de travailleurs. La région propose également une application qui s'appelle Fertic et en fait, elle permet de prendre le train sans réserver de billets à l'avance. et l'application fait office de billet. Il suffit d'y renseigner nom, prénom et coordonnées bancaires. Et en fait, le principe est très simple. À l'approche du train, on active son GPS et Internet et on appuie sur le bouton. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, les contrôleurs sont au courant de ce moyen de paiement dans le train. Et en plus, Fertik a un prix dégressif. Donc, c'est-à-dire que plus on l'utilise, et moins ça revient cher. Et autre avantage, on peut générer une facture en fin de mois pour la participation employeur. Donc, combiné avec le vélo, ça devient de moins en moins cher pour, voilà, pour se rendre au travail.
Et donc ça, c'est une application qui est assez connue et utilisée, ou au contraire, pas tant que ça pour le moment ?
Moi, dans le train, j'ai l'impression que c'est de plus en plus connu. En passant de siège en siège, je vois quand même que les gens, ils ont de plus en plus cette application-là. Donc, je pense qu'au début, non, c'était pas connu, mais
ça va mieux maintenant.
Mais c'est très pratique.
Bon, bah, tant mieux. Alors, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas donc à utiliser cette application si vous utilisez notamment le train pour vous déplacer donc entre Toulouse, Montauban et Agen. C'est bien ça.
Oui.
Si on revient donc sur le sujet un petit peu des voitures qui donc est le principal moyen de transport dans le département. Donc aujourd'hui, a priori, il y aurait environ donc 0,64 voitures par habitant. C'est plus élevé que la moyenne nationale qui est à 0,55. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait donc expliquer le fait qu'il y ait encore aujourd'hui autant de voitures qui sont utilisées par les Tarn-et-Garonnais, alors que dans d'autres endroits en France, il y a beaucoup plus d'autres moyens de transport qui sont utilisés?
Dans notre département, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas sur une seule ville-centre. On a quatre grandes villes qui se partagent une grande partie de la population. Donc Montauban, Castel, Moissac et Caussade. On a aussi des zones d'emploi qui sont relativement éclatées. Et donc, forcément, si on a une personne dans le couple qui va travailler sur Toulouse, l'autre personne qui va travailler dans une autre ville, il faut absolument avoir deux voitures pour être autonome aujourd'hui. En prime, on a aussi la répartition des trains qui se fait surtout sur un axe nord-sud et qui ne permet pas de faire du village à village par les trains. Et la vitesse des voitures sur les grandes départementales qui empêche bien souvent ou qui démotive fortement les gens à prendre le vélo.
Je voulais rajouter également, on parlait du coup des alternatives à la voiture précédemment. Comme je le disais, il y a l'intermodalité train-vélo qui se développe quand même peu à peu. Mais comme il le disait le membre du bureau, ça ne permet pas de faire les trajets village. Ces mêmes trajets restent complexes en vélo car les aménagements ils sont rares. La vitesse élevée des véhicules rend la cohabitation des routes complexe. Le réseau de bus, notamment dans le Tarn-et-Garonne, existe et il est très économique, mais il reste avant tout un réseau scolaire et il y a peu de fréquences en termes d'horaire et en termes de nombre de bus. Par exemple, pour un actif qui n'habite pas sur un axe majeur, le bus n'est pas encore une alternative crédible à la voiture à cause du manque de flexibilité et de fréquence.
Par rapport donc notamment aux lignes qu'il y a sur Montauban, c'est ça ?
Oui, c'est
oui.
ça.
C'est vrai qu'effectivement, pour avoir jeté un œil au réseau de Montauban, donc on voit qu'il y a à peu près 8-9 lignes de bus, qui desservent un petit peu Montauban, mais aussi les villes un petit peu autour. Mais par contre, il y a entre 20 minutes d'attente entre chaque bus, dans le meilleur cas, mais ça peut monter jusqu'à 40 minutes d'attente entre deux bus sur certaines lignes. Et on peut comprendre que forcément, si on veut aller au travail en bus, mais que le premier bus, par exemple, est trop tôt, le suivant risque d'être potentiellement trop tard. Et donc, forcément, là, on se dit, on est coincé, le bus, on ne peut pas le prendre, on est obligé de prendre autre chose, c'est la voiture. Du coup, est-ce que finalement, les Tarn-et-Garonnais seraient un petit peu, malgré eux, dépendants de cette voiture, finalement, par rapport à d'autres territoires ?
C'est vrai que si on propose... plus on propose, en fait, des alternatives à la voiture, plus les usagers ils vont s'en saisir, en fait. Si, comme on le disait précédemment, si on a un réseau étendu de bus, un réseau cyclable continu, des stations de vélo. Par exemple, on a la ville de Albi, qui est équivalente en termes du nombre d'habitants. On peut voir dans cette ville quand même qu'il y a... ils ont mis en place tout un réseau pour rendre la ville circulable, par rapport notamment à la voiture, où ils ont fait un sens unique. Pour faire le tour de la ville et pour rendre plus fluides les déplacements. Ils ont également un grand nombre de lignes de bus. Il me semble qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine, si on regarde sur le site de la ville. Ils ont fait appel notamment à à une entreprise, le CEREMA, pour réfléchir en fait à comment structurer la ville pour que ce soit agréable pour tout le monde, pour que ce soit agréable pour les automobilistes, les cyclistes. Donc les Tarn et Garonne sont tributaires des aménagements qu'on leur propose.
Oui, et pour le moment, ils ne sont visiblement pas suffisants pour permettre de se séparer de la voiture. Alors si on commence à s'intéresser maintenant donc aux mobilités douces, alors déjà, les mobilités douces, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il n'y a que le vélo qui est une mobilité douce, par exemple ?
Alors non, il y a également la marche. La marche, on peut l'utiliser autant de fois que l'on veut et pour faire des petits trajets. On peut combiner voiture plus marche. On peut se garer un peu plus loin et, voilà, et garder 10 minutes pour marcher.
En fait, la mobilité douce, ça va être tous les transports qui vont faire moins de carbone que l'utilisation courante de la voiture. Et on a aussi la mobilité active. C'est toutes les formes de mobilité qui vont nous permettre d'utiliser le corps comme énergie principale pour notre déplacement. Donc le covoiturage peut rentrer dans la mobilité douce. On peut aussi considérer le bus comme de la mobilité douce, puisqu'on va utiliser moins de carbone par habitant.
Est-ce qu'éventuellement, du coup, la trottinette électrique, on peut considérer ça comme une mobilité douce ? Est-ce que du coup, le corps n'est pas tant utilisé que ça ? Bon, il y a quand même une batterie. Est-ce que du coup, ça peut en faire partie ou pas, par exemple ?
Ce sera une mobilité douce, mais pas forcément une mobilité active.
Est-ce qu'on pourrait éventuellement se pencher un peu sur les avantages de se déplacer en vélo ? Pourquoi, du coup, c'est sympa, c'est cool, c'est avantageux de choisir le vélo plutôt qu'un autre mode de transport ?
Ben, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a une amélioration quand même au niveau de la santé physique, mentale. C'est vrai que quand on est sur son vélo, alors oui, on doit faire attention quand même aux usagers de la route, mais je trouve qu'il y a vraiment moins de charge mentale. On doit moins faire attention que si on est au volant de la voiture. En vélo, on n'a pas peur de se faire rayer la voiture. On prend pas beaucoup de temps pour se garer aussi. Donc en fait, c'est plein d'avantages. C'est aussi que, vu que le corps est en mouvement, ça nous permet de faire le vide aussi dans notre tête. Voilà, on rentre du travail et le fait que le corps soit en mouvement, ça aide à oublier, ne plus penser à sa journée, et on rentre chez soi, ça fait du bien, quoi.
Je vais parler de mon expérience personnelle, parce que j'étais vélo-taffeur quand j'habitais aux Pays-Bas et j'avais une vingtaine de kilomètres à faire à l'aller comme au retour. Au début, j'ai eu très peur, comme n'importe qui se met au vélo. Et puis on se rend compte que, en fin de compte, on ne met pas beaucoup plus de temps qu'en voiture. Le matin, on arrive au boulot, on est réveillé, on est prêt à travailler, alors que si on prend la voiture, on est encore endormi, et il faut un certain temps pour commencer à se mettre en route. Le soir, on rentre à la maison, on oublie tous les problèmes liés au boulot pendant le trajet. Donc, on arrive, on est plus disponible pour sa famille, même si ça prend plus de temps, c'est pas réellement un problème. Ensuite, j'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient en vélo, et donc, le matin, on arrive, on a des douches, des vestiaires, et c'est un moment d'échange avec des gens qu'on connaîtrait pas, justement, sur ce type d'entreprise. Et donc, ça fait partie du réseautage, même au niveau de l'entreprise. Être à poil, en train de prendre sa douche, avec un directeur, ça fait pas du directeur un copain, mais ça fait quelqu'un qui nous connaît, qui sait ce qu'on fait, et nous, on sait ce qu'il fait. Donc, il y a cette dimension aussi sociale, au niveau travail, qui est importante. On a le même phénomène aux Pays-Bas, avec les enfants qui vont en vélo à l'école. Il y en a 80% qui vont en vélo à l'école. Pourquoi ? Parce que si on regarde l'historique, ils ont tous des infrastructures partout qui sont sécurisées, séparées de la voiture, qui leur permettent d'aller en groupe. Donc il y a aussi cette dimension sociale. Ils y vont ensemble et ils discutent pendant le trajet. Donc il y a tous ces avantages-là à faire du vélo qui sont souvent ignorés. Il y a l'aspect santé, bien sûr, l'aspect santé physique, l'aspect santé mentale, l'aspect économie aussi. L'aspect économie, quand on prend une piste cyclable, ça coûte rien à faire par rapport à une autoroute, ou même par rapport à une route. Il n'y a pas besoin d'entretien quasiment, puisqu'on ne va pas l'user. Et ça permet de commuter très rapidement sur des trajets de faible distance. Je dirais entre 0 et 10 km selon le type de vélo qu'on va utiliser. On va être plus rapide que la voiture. Donc, il y a 200 avantages, mais les habitudes ont la vie dure, et on entend très souvent « on a toujours fait comme ça », alors que c'est faux. Hein, on a fait comme ça quand la voiture est arrivée, mais auparavant on roulait en vélo, avec une carriole. On pense que c'est plus lent, mais c'est pas nécessairement vrai. Il y a beaucoup de choses qui empêchent, en fin de compte, l'essor du vélo, parce que la plupart des personnes a du mal à changer.
C'est vrai que je viens de réfléchir par rapport à moi-même il y a quelques années, lors de mon précédent emploi. J'avais 8 km à faire. Donc ça va, ça se fait bien, et en vélo je le faisais en 25 minutes, et en fait je me suis rendu compte qu'en voiture, entre le moment où je ne pouvais pas me garer devant mon lieu de travail, il fallait que je me gare un peu plus loin, je mettais donc 12 minutes de trajet de voiture plus 7 minutes de marche. Au final on est à 20 minutes trajet voiture pour 25 minutes trajet vélo, sauf que tous les jours l'aller-retour en voiture, juste au niveau de l'économie d'essence, surtout aujourd'hui où l'essence elle est plutôt chère, c'est peut-être pas plus mal de réfléchir au vélo, effectivement, sur des trajets comme ça relativement courts. Par contre, évidemment, le vélo n'a pas que des avantages. Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler, par contre, de ces éventuels inconvénients ?
Je voulais juste rajouter, oui, au niveau des avantages, on parlait économie, on se rend compte aussi que les centres-villes sans voiture, en fait, sont souvent plus dynamiques économiquement. Donc, on voit, si on reprend l'exemple de Montauban, on voit qu'il y a une grande concentration de commerce qui se trouve dans la zone piétonne. Et en fait, on se rend compte que s'il y a de plus en plus de cyclistes, il y a forcément, il va y avoir plus d'achats dans les commerces, parce que vu que c'est tout petit, tout étroit, il n'y a pas beaucoup de place de parking pour les voitures, ça va être beaucoup plus simple de faire des achats.
Et du coup, pour les inconvénients du vélo ? Alors évidemment, j'imagine que pour vous, vous ne voyez pratiquement que des avantages à faire du vélo, mais j'imagine qu'il devrait quand même y avoir quelques petits inconvénients. On peut quand même un peu en parler. Il y a des choses qui sont un peu moins pratiques, peut-être.
Ouais, je ne sais pas si vous parlez d'inconvénients ou de limitations.
Oui, peut-être plus, le mot serait plus, quelles sont les limites du vélo ?
Voilà. Alors, on va retrouver trois grandes limites qui vont être souvent prononcées, mais qui ne sont pas toujours si vraies que ça. La première, c'est la lenteur, ce que Laurent disait tout à l'heure. Ça va dépendre du nombre de kilomètres. Pour un petit trajet, c'est souvent plus simple et plus rapide de prendre le vélo ou de prendre les pieds pour faire ce petit trajet. À moins d'un kilomètre, on imagine, c'est bien souvent la marche le plus court. Et à moins de 5 km, c'est le vélo qui va être le plus rapide. Et au-delà de 5 km, ça va dépendre de la topographie, ça va dépendre du type de vélo qu'on va utiliser et du trajet, de est-ce que c'est de la ville ou pas. Puisqu'en ville, en général, on est plus rapide à vélo, avec une moyenne de 17 km/h. Qu'en voiture, on a une moyenne d'à peu près 15 km/h.
Et au point de vue sécurité, c'est vrai qu'il ne faut pas nier qu'un cycliste est physiquement plus vulnérable qu'un automobiliste, surtout sur nos routes départementales où la vitesse est élevée. Donc le risque d'accident grave est effectivement plus important. Mais comme on l'a dit précédemment, il y a quand même deux bonnes nouvelles. C'est que la première, c'est que les bénéfices pour la santé, ils sont 20 fois plus grands que les risques. Pédaler rallonge l'espérance de vie, malgré les risques routiers. Et la seconde, c'est que la dangerosité n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'une piste cyclable bien séparée réduit considérablement le risque d'accident par rapport à une route partagée.
Une autre limitation, c'est le transport d'objets. Souvent, on se dit qu'avec un vélo, on va transporter moins. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai avec les vélos électriques et les vélos cargo. Et puis, est-ce qu'on transporte des objets lourds et des objets encombrants tous les jours ? Ça, c'est pas une certitude. Donc, est-ce qu'il va être vraiment nécessaire de déplacer 1,5 tonne de métal juste pour aller déposer une lettre ou aller chercher des croissants à la boulangerie ? Je pense que la question peut se poser.
Alors, si on parle maintenant d'une troisième partie, un petit peu plus sur les aménagements pour la mobilité douce et notamment pour les vélos, diriez-vous qu'actuellement, les infrastructures sont suffisantes pour se déplacer sereinement en utilisant le vélo dans le département ?
Comme on l'a dit précédemment, on a vu que c'était compliqué en termes d'aménagement, c'est-à-dire qu'on a des pistes qui sont discontinues, donc il y en a beaucoup qui existent, on a 14 km de pistes cyclables, mais elles ne sont pas assez sécurisées, donc ce qui donne forcément pas trop envie aux usagers de s'y aventurer. Pour le département, on a quand même la chance d'avoir la voie verte du canal latéral de la Garonne, qui relie Valence, Moissac, Castel et Montèche. Et les plus grandes villes, ils ont quelques aménagements, principalement de la bande cyclable. Malheureusement, l'absence de connexion entre ces différents tronçons ne permet pas des déplacements sereins d'un point à un autre.
Et dans le cas de Montauban, qui est quand même la ville principale du département, est-ce que ces infrastructures sont suffisantes ou est-ce que là aussi, il y a des manquements ?
Oui, je vais me répéter, mais du coup, c'est vrai que les bandes cyclables ne sont pas continues, en fait. Et, donc, c'est-à-dire qu'on va faire peut-être 500 mètres et puis on arrive au bout et là, c'est débrouille-toi. Donc, c'est ça un des principaux freins, je pense. Ça donne aussi un mauvais signal aussi aux automobilistes, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas des pistes plutôt sécurisées et bien séparées, ça veut dire qu'on ne va pas embêter les automobilistes aussi. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que chacun peut, chacun
espace,
peut
en fait.
Rouler comme il veut.
Moi, je vais revenir sur mon expérience donc, des Pays-Bas. Si on regarde dans les années 70, Amsterdam était aussi embouteillé que Paris. Et c'est la population qui a décidé que la rue devait être pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, et qu'ils devaient pouvoir aller à l'école. Et ça a été repris par un membre du Parlement qui a commencé à pousser pour la mise en œuvre d'une politique cyclable. Sans volonté politique, on ne va rien faire. Il faut une volonté politique extrêmement forte. Il faut être prêt à affronter des gens qui sont contre un changement. Et il y en a énormément, parce que c'est qu'une fois que le changement a été amorcé que ces gens qui étaient contre le changement commencent à en voir les bénéfices. Donc là, on est dans une période de transition au niveau de la ville. On a eu des élections, on a un nouveau maire, on va le rencontrer sans doute en mai. On va voir comment est-ce qu'on peut collaborer pour permettre de mieux partager tout ce qui est chaussée et tout ce qui est système de déplacement. Et on voit aujourd'hui que la culture vélo de la ville de Montauban, elle est assez mauvaise, en ce sens que le message qui est passé, c'est par exemple, on a 85 km de pistes cyclables, alors qu'en réalité, le chiffre, c'est 14 km, parce que la ville ne fait pas forcément la différence entre une piste cyclable qui est vraiment quelque chose de séparé de la route, sur lesquels seuls les vélos vont rouler. Les voies vertes, il y a énormément de voies vertes qui sont en réalité sur la ville de Montauban, ça correspond à des cheminements piétons-cycles. Donc on n'a pas nécessairement une largeur suffisante pour que tout le monde puisse cohabiter en sécurité. Ou on a des intersections où les vélos sont jamais prioritaires. Donc on a ça. Et enfin, on a le troisième type d'aménagement qui sont des bandes cyclables qui, elles, sont peintes sur la chaussée. Et à Montauban, on a la chance d'avoir des bandes cyclables en pointillés à certains endroits. Donc il y a toutes ces choses-là à faire, à regarder d'une manière très globale et commencer à mettre en place un système qui permette aux cyclistes de se déplacer en sécurité, sans pour autant chercher à léser en permanence les automobilistes, parce qu'il y a des automobilistes qui ont effectivement besoin d'avoir une voiture pour se déplacer.
Alors justement, est-ce que, si on se concentrait un peu sur le cas de Montauban, quelles infrastructures seraient, selon votre association, vraiment nécessaires pour encourager les usagers à utiliser davantage le vélo? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment mettre en place, là, dans les années à venir, au niveau de la ville, pour que le vélo soit un petit peu plus utilisable en ville et de façon notamment plus sereine et plus sécuritaire?
Il y a un plan directeur cyclable 2019-2026 qui a été élaboré en concertation entre la ville et les usagers pour faciliter les déplacements à vélo. Et on voit bien que seulement 25% ont été réalisés. Donc Montauban a également publié une charte du vélo qui décrit le type d'infrastructure le mieux adapté selon le nombre et la vitesse de véhicules circulant sur les axes routiers. Et l'aménagement des carrefours est aussi repris dans cette charte. Donc cette charte, elle est basée sur les recommandations du CEREMA, qui, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est un organisme gouvernemental dédié aux infrastructures. Suivre du coup la charte à la lettre permettrait de concevoir des infrastructures de qualité. Et l'expérience usagée de Montavélo 82 est aussi importante et devrait être mieux utilisée par la ville, en particulier dans les premières phases de conception. Corriger des erreurs de conception sur le papier, c'est bien moins coûteux que de corriger des erreurs de réalisation physique.
Peut-être on va rajouter, la première chose qu'on voit aujourd'hui qui empêche l'utilisation du vélo, c'est la peur de l'usager. Et Sophie vient de dire, il faut qu'on ait un réseau cyclable cohérent avec des infrastructures qui soient adaptées au type de circulation qu'il peut y avoir sur les routes. Le deuxième point, c'est une fois qu'on arrive à destination, qu'est-ce qu'on fait? Il faut laisser son vélo quelque part. Et donc, laisser son vélo quelque part, c'est le vol de vélo, c'est le deuxième frein qu'on a par rapport à l'utilisation du vélo. Donc, il faut qu'il y ait des solutions pour pouvoir se garer et être sûr qu'on va retrouver son vélo quand on revient. Alors, de nouveau, il y a le CEREMA qui a fait beaucoup d'études et qui sait à peu près, qui a défini quel type de solution est nécessaire par rapport à l'utilisation du parking. Donc si on est à quelques minutes pour aller chercher du pain, c'est pas la même chose que si on le laisse toute la journée son vélo. Et donc il faut adapter ça comme ça. Alors on a des choses où la distance par rapport au lieu où on veut se rendre va être impactante sur l'utilisation du vélo. La durée où on va laisser son vélo, c'est aussi impactant. Et puis le type de vélo. Et Sophie disait que Montauban et même le Tarn-et-Garonne, c'est un nœud de cyclotourisme. Mais un cyclotouriste qui arrive sur Montauban, il a zéro solution aujourd'hui pour garer son vélo, où il y a toutes ses affaires, et pouvoir aller se balader en ville. Donc d'un point de vue économique, et c'est quelque chose qu'on va discuter avec la mairie, hein, il serait sans doute judicieux de mettre en place un système de consigne pour les gens qui viennent à Montauban pour visiter la ville et qui aujourd'hui ne le font pas parce que bah, ils ont peur de se faire piquer leur vélo.
Du coup, pour ceux qui seraient éventuellement ceux qui voudraient se mettre un petit peu au vélo, quels conseils pourriez-vous le donner donc aux auditeurs qui souhaiteraient s'y mettre davantage mais qui savent pas forcément trop par quoi commencer, comment s'y prendre?
Ben déjà, mon conseil, c'est surtout de bien s'équiper, c'est-à-dire être visible par le moyen de gilets jaunes. Avoir un éclairage sur son vélo, arrière, avant.
Se considérer comme quelqu'un, un usager normal de la route, ni plus ni moins important que les autres véhicules motorisés, et donc respecter les règles qui sont aussi pour les véhicules motorisés. Rouler assez loin du trottoir pour ne pas risquer l'emportirage, environ un mètre du trottoir. Ça permet aussi d'éviter de se faire doubler tout en se faisant serrer par une voiture.
Peut-être rester humble. Le vélo, même quand il est prioritaire, il faut qu'il fasse attention. Parce qu'on est plus fragile. Donc il y a un mode de conduite à adopter qui fait que on est un usager normal, mais on est un usager fragile, et donc on ne va pas forcer si on veut passer. Et peut-être d'autres choses, Montauban ayant beaucoup d'itinéraires piéton-cycle, la courtoisie est super importante avec les piétons qui sont l'autre population d'usagers fragiles de la route.
Si jamais est-ce que vous pourriez donner quelques astuces pour pouvoir réparer et remettre en état son vélo?
Alors oui, on a tout d'abord, il faut vérifier la pression des pneus assez régulièrement. Vos freins doivent être efficace. On évite aussi la roue sur la chaîne, donc on passe un petit peu de graisse dessus. On en a parlé tout à l'heure, mais assurez-vous qu'il y ait bien de l'éclairage, notamment le matin, le matin assez tôt et plutôt en fin de journée. Donc soit vous savez faire, soit vous pouvez venir à notre atelier d'autoréparation deux fois par mois, soit vous pouvez aller voir les vélocistes montalbanais, ceux qui sont présents notamment sur les marchés les mercredis et les samedis.
Donc mercredi et samedi sur les marchés, et après donc il y a deux dates pour venir faire réparer les vélos chez vous. Est-ce que c'est à des journées particulières, précises?
Alors c'est des journées particulières et en même temps adaptées, c'est-à-dire que l'atelier d'autoréparation se trouve à Port-Canal, qui est pas nécessairement facile d'accès quand on a par exemple un pneu crevé. Donc pousser le vélo jusqu'à Port-Canal, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc on a des gens qui sont des techniciens de réparateurs vélo. Le mieux c'est de les contacter. Et puis de prendre rendez-vous, parce que parfois ils peuvent se retrouver en n'ayant personne à aider, et parfois ben les gens viennent et ils sont pas là parce qu'ils savent pas qu'il y a quelqu'un. Donc le mieux c'est de prendre rendez-vous. Oui.
Pour les contacter, on peut passer par
Montavélo.
Ouais. Donc ouais. Via Facebook, via le site internet.
Via Facebook, via le site internet, via notre adresse email contact@montavelo.fr, montavelo82.fr pardon.
Voilà, super. Ça fera quelques informations. Si jamais vous souhaitez faire réparer votre vélo, n'hésitez pas à contacter l'association Montavélo. L'une des dernières questions pour pouvoir conclure cette interview, par rapport à Montavélo, justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? C'est quoi vos prochaines actualités?
Sur la communauté de communes de Terre de Confluence, Montavélo vient de monter une antenne, dont je suis responsable. Parmi nos événements, aujourd'hui, on se retrouve pour Mets à vélo, à Saint-Nicolas-de-la-Grave. On va mettre en place très rapidement des ateliers d'autoréparation, des sorties à vélo, des événements, et tout ce que Montavélo peut proposer sur Montauban. Et donc, si des gens sont motivés et souhaitent nous rejoindre sur Terre des Confluences, c'est avec plaisir qu'on les accueille.
Et nous, sur Montauban, on a le 30 mai, mais on continue Mets à vélo. On est en train de plancher sur un parcours dans la ville.
Donc voilà, le 30 mai potentiellement, le plan n'est pas encore révélé, mais ça le sera plus tard, j'imagine.
Oui, c'est ça, bientôt, on vous y attend nombreux, on serait très contents que parents, enfants, tout le monde.
Tout le monde veut venir faire un peu de vélo à Montauban le 30 mai.
C'est ça.
Super. Est-ce que vous auriez éventuellement un dernier message, quel qu'il soit, pour les auditeurs ?
J'ai vu beaucoup de personnes se mettre au vélo. J'ai jamais vu quelqu'un abandonner le vélo une fois qu'il s'y était mis, excepté pour raison de santé. Les gens qui se retrouvent avec un genou bloqué, ils peuvent plus en faire. Mais sinon, sauter le pas, ça a l'air d'être extrêmement compliqué. Mais sauter le pas dans l'autre sens, c'est encore pire.
Et je peux rajouter aussi que la petite anecdote personnelle, c'est que moi, j'ai commencé à faire du vélo en ville quand j'étais en train de terminer mes études. Donc, c'était à Lyon. Donc, vous imaginez, c'est une énorme ville où il y a des voitures constamment. Et donc, pour commencer à faire du vélo, c'est un peu flippant. Mais en fait, c'est comme il disait Laurent, une fois qu'on a dépassé cette peur et que voilà, on prend confiance, c'est vrai qu'on a du mal à lâcher après. Ça fait beaucoup de bien au corps et à la tête.
Bien, merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Nous étions donc avec Sophie Orissé, Laurent Pambaguian et Ludovic Grondin de l'association Monte à Vélo. Merci à vous trois.
Merci.
Et donc je vous laisse pour une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour la chronique du Choupisson. Pour le moment, nous allons écouter « À bicyclette » de Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Le rendez-vous nature des plus jeunes, c'est maintenant dans la mini-chronique des Choupissons. Cette fois-ci, dans la mini-chronique du Choupisson, nous allons nous intéresser à la mobilité douce, c'est-à-dire se déplacer mais sans polluer. Je ne vais pas être tout seul cette fois-ci, je vais accueillir Evan. Salut Evan.
Bonjour.
Donc Evan est stagiaire chez FNE et donc ben en fait on va vous faire cette chronique ensemble. Alors, si on revient au sujet, donc la mobilité douce, je pense que vous savez tous que la plupart de nos moyens de transport aujourd'hui sont polluants, c'est-à-dire la voiture ou l'avion par exemple.
L'avion est justement le moyen de transport le plus polluant et particulièrement lors de ce qu'on appelle les transports court-courriers, c'est-à-dire les petits voyages comme Toulouse-Paris par exemple. Car l'avion consomme et pollue énormément pendant toute la phase du décollage. Mais bon, Vous allez me dire qu'en Tarn-et-Garonne, on ne prend pas souvent l'avion pour se déplacer. Et vous avez bien raison. En deuxième vient la voiture thermique, c'est-à-dire celles qui ne sont pas électriques. En particulièrement la voiture s'il n'y a qu'une seule personne dedans. Et plus la voiture est grosse, plus elle pollue. C'est là que les problèmes commencent. La voiture, c'est de loin le moyen de transport le plus utilisé dans notre département. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple. Le Tarn-et-Garonne est un département très rural, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de campagnes et pas tant de grandes villes que ça. Mais qui dit beaucoup de campagnes dit aussi que les trajets sont souvent longs et mal desservis. Les gens qui ne vivent pas en ville doivent donc aller assez loin pour aller faire leurs courses ou pour travailler par exemple. Et le manque de solutions pour se déplacer sans utiliser la voiture devient un problème. La voiture reste à ce jour le moyen le plus pratique et flexible de se déplacer en département. Pas forcément le plus rapide, surtout sur le petit trajet, mais le plus flexible. Les autres moyens de transport moins polluants comme le train ou le bus par exemple, et surtout le bus, ne passent pas assez régulièrement. À Montauban par exemple, il y a 8 lignes de bus, mais 6 d'entre elles ne passent qu'une fois toutes les 40 minutes et ne passent que dans les rues vraiment principales de la ville. 40 minutes entre deux bus, c'est vraiment long et ça ne permet pas aux gens de pouvoir vraiment compter sur ce moyen de transport pour le travail par exemple. Surtout s'ils doivent encore marcher longtemps jusqu'à leur lieu de travail. Pour les personnes qui se déplacent à Montauban même, il pourrait y avoir la solution du vélo. Le vélo, en termes de mobilité douce, c'est génial. Lorsqu'on les utilise, on ne pollue pas. Et faire du vélo apporte beaucoup d'autres bienfaits.
Alors, bah, par exemple, faire du sport, hein, évidemment, faire du vélo, c'est faire du sport. Et vous savez bien que pratiquer une activité physique, c'est très bon pour la santé. Ça, c'est aussi bon pour le moral et pour la qualité de sommeil. Ça réduit le stress, ça permet de se changer les idées et d'avoir une meilleure estime de soi. Faire du vélo, c'est aussi faire des économies. Alors surtout aujourd'hui où l'essence pour la voiture coûte terriblement cher. Plus de 2 euros le litre, bah autant dire que chaque kilomètre qu'on peut économiser, c'est bon à prendre. Ça permet aussi le vélo de se déplacer rapidement sur de petites distances. Et pour un trajet d'environ 5 km, en fait, le vélo, c'est plus rapide que la voiture. En voiture, on peut être coincé dans des bouchons ou on peut avoir du mal à trouver une place pour se garer, par exemple. C'est des problèmes qu'on évite facilement avec le vélo et c'est ce qui fait la différence sur ces fameux petits trajets, même si on peut s'imaginer le contraire. Mais pour pouvoir utiliser le vélo, en fait, il faut que la ville soit équipée pour accueillir les cyclistes dans de bonnes conditions. Par exemple, il faut des pistes cyclables bien séparées de la route pour que les vélos et les voitures ils aient chacun leur place et que les vélos puissent rouler en toute sécurité. En fait, les pistes cyclables qui sont mélangées aux voies de bus, par exemple, comme ça peut arriver parfois, c'est pas vraiment une bonne idée parce que ça met pas complètement en sécurité les cyclistes. La piste cyclable doit également parcourir une rue entière et ne pas apparaître ou disparaître au milieu de nulle part, comme parfois ça peut arriver. Le cycliste, il est en sécurité tant qu'il se retrouve sur sa piste cyclable et d'un coup, il se retrouve brutalement à nouveau en danger à partager la route avec la voiture. Il faut également des aménagements aux intersections, comme par exemple des feux vélos, pour sécuriser vraiment ces passages qui sont en fait très très risqués pour les cyclistes. Et c'est d'ailleurs la majorité des accidents entre les cyclistes et les voitures, ça se passe à ce niveau-là, au niveau des intersections. Enfin, il faudrait aussi des endroits où pouvoir galérer et attacher son vélo en toute sécurité, comme des arceaux par exemple, mais idéalement, ce serait des parkings vélos sécurisés avec des consignes. Comme ça, on évite le vol. C'est d'ailleurs encore mieux si ces parkings ils sont situés proches d'autres commodités, comme par exemple des lignes de bus, de métro ou de train.
Heureusement, beaucoup de villes commencent à s'équiper de tout ça pour encourager la population à se déplacer en vélo et réduire ainsi la pollution. Quelques conseils pour rouler en sécurité à vélo. Déjà, n'oubliez pas de prendre un casque. Alors oui, ce n'est pas très stylé, mais si vous avez un accident, vous serez bien content d'avoir la tête protégée. Si vous sortez en vélo le matin ou le soir, pensez à bien vous équiper de lumière pour mieux voir la route, mais également vous rendre visible des voitures. N'oubliez pas de porter un gilet réfléchissant, comme un gilet jaune par exemple. Toujours dans l'idée d'être visible par les voitures et d'être plus en sécurité. Enfin, vérifiez l'état de votre vélo avant de partir. Les pneus sont-ils bien gonflés? La chaîne est-elle en bon état et graissée? L'état des freins est très très important. Et faites attention.
Si vous avez un doute et que vous souhaitez vous mettre davantage au vélo, vous pouvez le faire réparer. Déjà, pour ça, vous pouvez contacter l'association Monte à Vélo 82, dont vous avez entendu la petite interview tout à l'heure. Et vous pouvez toujours organiser donc un rendez-vous pour être sûr que votre vélo est en bon état et pour pouvoir vous déplacer sereinement et tranquillement. Et voilà, cette chronique du Chopisson est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses sur le vélo, ses avantages et les aménagements nécessaires pour l'utiliser plus souvent. On enchaîne tout de suite avec le programme du Hérisson.
Avec France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, la nature a son agenda.
Pour le programme du Hérisson du mois de mai, on va commencer avec le mercredi 6 mai à 17h à l'Université Populaire de Montauban. Il y aura une conférence sur les enjeux environnementaux du Tarn-et-Garonne d'aujourd'hui et de demain. Ça sera fait par Gaëtan Deltour, le président de FNE 82. Le samedi 9 mai, de 19h30 à 22h à Caylus, il y aura une conférence et une sortie nature sur le thème des chauves-souris avec le CPIE. Prévoyez vos lampes de poche. Le dimanche 10 mai, de 15h à 17h à Caylus, au niveau du lac, le CPIE propose une formation sur l'inventaire des chardonnerets élégants, une espèce qui fera justement l'objet de l'actu juste après. Du 11 au 15 mai, à Caumont, l'association La Cucaloca propose à sa ferme un chantier formation sur l'art mural avec Nicolas Rossello, un artisan spécialiste de la terre cuite. Les 16 et 17 mai, à La Tancane, l'association Terre à Terre propose un nouveau chantier de médecine castor. C'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à venir donner un coup de main et en apprendre un peu plus sur cette technique de restauration des cours d'eau. Le 19 mai, à 14h15 et à 21h, à Beaumont-de-Lomagne, il y aura un ciné-débat autour du film Le Chant des Forêts de Vincent Munier. Ainsi, vous pouvez découvrir plusieurs espèces qui peuplent les forêts vosgiennes. Du 20 au 24 mai, c'est la fête de la nature. Ça va être l'occasion de réaliser plusieurs sorties et des activités en plein air ou en lien avec la nature. Dans le Tarn-et-Garonne, en voici quelques-unes. Le 20 mai, déjà, à 18h, à la maison Ferma de Beaumont-de-Lomagne, il y aura une conférence sur les arbres, leurs intérêts, leur plantation et leur entretien par le CAUE 82. Le 21 mai, à 14h, à Caussade, l'Office de tourisme s'associe au CPIE et organise une sortie nature pour découvrir les espèces de plantes envahissantes. Toujours le 21 mai, FNE 82 vous invite à une petite soirée jeu de société autour de la nature, au bar à jeux Le Repère du Phénix de Montauban. Nous serons là pour vous faire découvrir des jeux incroyables et nous en profiterons également pour vous proposer un petit « tu te mets combien » version nature. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est accessible à tous. Le 22 mai, à 10h, à Haute-Rive, au jardin des Claricelles, il y aura une visite nature de ce magnifique jardin privé d'inspiration anglaise créé dans les années 90. Encore le 22 mai, à 20h45, à Caussade, au cinéma Les Récollets, il y aura un ciné-débat qui aura à nouveau lieu autour du film Le Chant des Forêts de Vincent Munier. Si vous l'avez loupé à Beaumont, bah c'est l'occasion de vous rattraper. Toujours le 22 mai, mais cette fois-ci à 21h à Beaumont-de-Lomagne, au cinéma Les Nouveaux Bleus, il y aura un ciné-débat autour du film Le Potager de mon grand-père. Le 23 mai, de 11h30 à 17h à Beaumont-de-Lomagne encore, à l'écolieu Argumba, il y aura une journée nature au programme. Il y aura des visites de jardin, des sorties nature, des conférences et pour les enfants, des chasses au trésor et des herbiers. Le 24 mai, au centre de l'aviron de Moissac, FNE 82, la LPO 82 et les assemblées cinétoyennes vous proposeront donc une sortie nature sur le Tarn et ses oiseaux. On commencera par une petite balade sur les berges du Tarn à 10h, puis un apéro lecture à 12h, suivi d'un pique-nique. Enfin, le 30 mai à 9h à Saint-Antonin-Nobleval, il y aura une sortie nature sur le thème des pelouses sèches de l'ENS de la Caussadaise. L'occasion de découvrir ce milieu naturel spécifique et comprendre ses enjeux de préservation. Tout au long du mois de mai, vous aurez également trois expositions en lien avec la nature. Du 4 au 29 mai, à l'Office du tourisme de Caussade, il y aura une exposition sur les plantes exotiques envahissantes. Et sur les mêmes dates, à Montpezat de Quercy, également à l'Office de tourisme, il y aura une exposition sur le sol vivant. Et enfin, du 13 au 28 mai, à l'école de musique de Caussade, il y aura une exposition sur le thème de l'eau. Et voilà, donc c'est un programme très chargé pour le mois de mai, en même temps le printemps est là. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les détails sur le site internet de FNE 82 ou sur nos réseaux sociaux. Et on enchaîne tout de suite pour enfin donc parler des chardonnerets élégants avec l'actu de FNE.
Info, alerte et bonne nouvelle, voici les actus de FNE 82.
Pour l'actu du mois, nous allons parler d'un très bel oiseau de notre département qui, malheureusement, fait encore trop souvent l'objet d'un trafic, comme ce fut le cas il y a quelques mois, le chardonneret élégant. Pour cela, nous invitons à nouveau Madame Isabelle Schoenecker-Rossi, avocate du cabinet Action Avocat de Montauban, qui a suivi ce dossier. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Le chardonneret élégant, donc, c'est un oiseau du groupe des passereaux. Les passereaux, aujourd'hui, c'est la grande majorité des espèces d'oiseaux. Il est un petit peu plus petit qu'un moineau et c'est un oiseau qui est très facile à reconnaître car, en fait, il a de jolies couleurs qui sont assez caractéristiques et on ne peut pas vraiment le confondre avec d'autres oiseaux du coin. Par exemple, il a la face rouge et les plumes de ses ailes, elles sont noires avec un bandeau jaune bien visible qui les divise en deux. Le reste de son corps, il est plutôt brun-blanc, assez clair et il a un bec conique et plutôt épais, ce qui est assez typique des oiseaux qui mangent des graines, les granivores. C'est un oiseau qu'on trouve toute l'année en fait dans le Tarn-et-Garonne. Et en France, en 2004, sa population était estimée à entre 1 et 5 millions d'individus. Mais évidemment, 20 ans plus tard, on se doute bien que la population, elle a chuté, malheureusement. C'est un oiseau qui habite les milieux forestiers ouverts et quand il est un petit peu plus proche de nous, ben, il peut s'installer dans les parcs ou les jardins. Petite anecdote, il aime bien les graines de chardon, d'où son nom en fait, chardonneret. Mais il se nourrit de graines variées. C'est aujourd'hui qu'il y a une espèce qui est protégée en France et ça va justement être l'objet de ma première question, Isabelle. Pourquoi est-ce que cette espèce en particulier est-elle protégée de nos jours ?
Alors, elle est protégée en France parce que sa population a chuté de façon très importante. En l'espace de 20 ans, on a une chute assez vertigineuse de 30% de la population des chardonnerets. La chute de la population des chardonnerets, elle est due à plusieurs causes. En priorité, l'utilisation de pesticides dans l'agriculture qui diminue et de façon très importante les possibilités de ressources pour ces oiseaux et aussi le fait que petit à petit leur propre constitution se dégrade du fait de ces pesticides, aussi parce qu'il y a un changement de l'environnement et de la biodiversité important. Vous l'avez dit, cet oiseau est attiré par les chardons et par d'autres graminées. Moins il y a de diversité dans les prairies, moins on trouve ce genre de plantes très intéressantes pour cet oiseau et pour sa vie, de telle façon que les populations chutent de façon importante. Et l'autre cause très importante de la chute de la population des chardonnerets, c'est effectivement le braconnage. Le braconnage qui est une activité très lucrative en matière d'oiseaux qui sont plus rares, qui chantent très bien comme c'est le cas du chardonneret et qui a une très jolie couleur, donc qui attire les personnes qui souhaitent posséder ce type de petits oiseaux chez eux, les garder en cage et profiter de leur chant malheureusement enfermé. Et donc ce trafic qui touche la totalité d'ailleurs des espèces sauvages et qui, je le précise, après la drogue est quand même le deuxième trafic le plus lucratif, les espèces sauvages. Deuxième trafic le plus lucratif après la drogue dans le monde entier, ce qui donne quand même l'ampleur de la catastrophe. Il a donc fallu prendre des règles absolues de protection le concernant depuis 20 ans maintenant.
Alors, du coup, est-ce que le braconnage de cette espèce est assez fréquente dans le département ?
Alors malheureusement, elle est fréquente dans le département puisque en fait, c'est un oiseau qui est commun du sud de la France, donc le sud-ouest et le sud-est de la France, qui se développe bien dans le Tarn-et-Garonne, enfin en tout cas se développe bien, vit correctement dans le Tarn-et-Garonne lorsqu'on lui laisse l'occasion de le faire, dans la mesure où on a une biodiversité et une agriculture qui sont assez adaptées à son mode de vie. On a des campagnes et donc cet oiseau vit agréablement dans les campagnes. C'est un oiseau aussi qui est très fréquent dans le nord du Maghreb et qui, autour du bassin méditerranéen, en fait, et dans les zones de céréales, de diversité de ce type dans les campagnes et les prairies, se développe et vit correctement.
Alors, si on en revient un petit peu aux braconniers, quelles sont les techniques, par exemple, qui peuvent être utilisées pour sa capture ?
Alors, ces techniques utilisées pour la capture par les braconniers, elles sont de plusieurs ordres. Alors, il y avait effectivement la technique de la glu, mais c'est une technique qui peut mener vraiment l'oiseau à mourir de façon très rapide, puisque il se retrouve complètement bloqué. Et puis même le décrochage de ce type d'oiseau, qui sont très petits, extrêmement fragiles, sont très dangereux. Et donc les braconniers utilisent la plupart du temps plutôt qu'on appelle des filets japonais, c'est-à-dire des filets à mailles très fines, qui ne sont pas trop visibles par l'oiseau, l'oiseau. En fait, il va pas se rendre compte qu'il y a un filet à l'endroit où il va passer, entre des haies, ou à proximité de céréales, et donc il va se prendre à l'intérieur de ces filets.
C'est-à-dire en vol, c'est-à-dire c'est des filets tendus, et au moment où il passe, il ne le voit pas, et il se fait attraper, et il reste bloqué, c'est ça ?
Exactement, d'accord. C'est ça, et il faut ensuite aller les décrocher dans ces filets où ils se sont un peu emmêlés, ils se sont pris dans les mailles, donc il faut aller les décrocher avec une certaine dextérité, sinon on porte atteinte à l'oiseau de façon irrémédiable et on le tue. C'est quand même très fragile. On a toujours dans les observations qui sont faites avec ces maillages des morts d'oiseaux immédiates au moment du choc, parce qu'il y a un stress aussi très important pour l'oiseau. Et ils sont attirés vers ces filets avec différentes méthodes, notamment les appâts. Donc c'est ce qu'on appelle l'appât, c'est un petit oiseau qu'on met dans une cage et qu'on laisse chanter à proximité des filets pour qu'il attire d'autres oiseaux. Et également, malheureusement, maintenant, les techniques modernes et numériques qui font qu'on imite les chants d'oiseaux sur des smartphones et on va pouvoir comme ça faire attirer d'autres oiseaux.
Oui, c'est quelque chose qui s'appelle la repasse, il me semble, en termes ornitho. Est-ce que ça peut être utilisé pour chez les ornithologues qui veulent observer les oiseaux, donc pas forcément pour les déranger, mais pour les observer, donc éventuellement essayer de l'attirer en utilisant le chant, parce que l'oiseau peut considérer, par exemple, que si c'est un mâle, que ça va être un rival, et donc il va venir voir pour défendre son territoire, par exemple.
Tout à fait.
Du coup, dans l'affaire du braconnage que vous avez suivi ici dans le département, qu'est-ce qui a été donc constaté ?
Alors, ce qui a été constaté dans cette affaire, c'est donc déjà ça s'est situé sur la commune de Savennes, tout près de Verdun-sur-Garonne. C'est une zone près de la Garonne, la vallée de la Garonne, qui est quand même propice à cet oiseau. Et ce qui a été constaté, c'est il y a eu une alerte au niveau de l'OFB en octobre 2021. Et ensuite, pendant un an, de novembre 21 à novembre 2022, l'OFB va surveiller le site, en fait, qui lui avait été indiqué, et va régulièrement photographier, filmer et constater les allées et venues la personne qui a été condamnée vers ses filets, la pose des filets par des temps qui sont propices, et le retrait des oiseaux capturés de façon très très régulière. On a des désignations sur le procès-verbal de la procédure qui montrent que de façon régulière, entre septembre et novembre 2022, la personne qui a été condamnée allait tous les jours quasiment récupérer des oiseaux dans ses filets. Ce qui est très important. Et ensuite, l'OFB va faire appel à la gendarmerie pour pouvoir mener une perquisition au domicile de la personne coupable. Et cette perquisition, qui a eu lieu le 15 novembre 2022, elle va démontrer que au domicile de cette personne, on a trouvé 83 cages de dimensions variables, ce qui démontrait qu'on pouvait y placer plusieurs oiseaux ou beaucoup d'oiseaux, 37 chardonnerets élégants qui étaient vivants dans ces cages, deux filets japonais qui étaient encore tendus et sur lesquels il y avait trois oiseaux pris dans les mailles, dont un qui était mort, et deux cages d'appelants vivants, c'est-à-dire ces petits oiseaux qui étaient là pour faire piège aux autres.
Les fameux appâts, du coup.
Voilà, et un instrument numérique pour pouvoir imiter le chant des oiseaux.
Alors, du coup, quel jugement a été rendu, en fait, sur cette affaire ?
Alors, le jugement qui a été rendu, il a été rendu en deux parties. En fait, la personne condamnée a reconnu sa culpabilité de façon très, très diminuée, en disant qu'il ne vendait pas les oiseaux, mais qu'il les échangeait contre des services. Voilà, c'est une excuse fréquente qui est avancée, mais qui n'a pas, bien sûr, résisté aux constatations qui étaient faites. Et donc, monsieur, on peut citer son nom, il a été condamné de façon définitive, il a accepté la décision, c'est monsieur Chora, Mourad Chora, a été condamné au paiement d'une amende de 8000 euros, assorti d'un sursis partiel sur le plan pénal pour la moitié de la somme, 4000 euros. Donc il a eu une amende pénale, on peut l'indiquer, de 4000 euros qu'il a dû exécuter, et il y a un sursis sur le côté partiel de la chose, chose. Il n'a pas été obligé de payer les 4000 euros suivants, à condition de ne pas être condamné dans les années qui viennent. Puis l'affaire s'est poursuivie parce que malheureusement cette décision pénale avait été rendue de façon assez confidentielle, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle une ordonnance pénale. Ce sont ce type de procédures qui sont maintenant décriées même sur le plan criminel, qui font que la justice, pour aller plus vite et pour traiter les dossiers avec célérité, ne les rend pas publiques et fait que la proposition de sanction est faite par le procureur de la République et homologuée par le juge. Ce qui a été le cas pour l'aspect pénal de cette affaire. Ça signifie que les parties civiles ne sont pas présentes à cette audience pénale et donc ne vont pas pouvoir immédiatement demander dommages et intérêts, se constituer, etc. Ça fait l'objet d'une autre procédure qui, en l'état, a pris plusieurs années, puisque sur le plan des intérêts civils, malheureusement, on est parfois, il y a moins de célérité. Et en tout cas, trois associations se sont portées et constituées parties civiles dans ce dossier. La LPO, Occitanie, l'ASPAS et France Nature Environnement 82. Elles ont chacune été accueillies en qualité de partie civile et elles ont obtenu chacune 2000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui sont les leurs, puisque ce sont des associations qui protègent l'environnement, la biodiversité et les espèces protégées. Et bien évidemment, les braconnages de ces espèces vient nuire à leur activité principale, qui est au contraire de permettre des protections importantes. Elles ont obtenu également une somme complémentaire de 400 euros chacune pour les frais de justice, pour couvrir pour partie en tout cas les frais de justice qu'elles ont eu à faire valoir pour pouvoir se constituer partie civile.
Est-ce que vous auriez éventuellement donc un dernier mot sur ce sujet pour nos auditeurs ?
Alors, ce qui est important, je crois, c'est de comprendre que la restauration des écosystèmes, elle est impérative pour que ces oiseaux qui sont protégés puissent effectivement vraiment se renouveler et trouver de la nourriture dans les campagnes aujourd'hui. Il faut aussi que les décisions de justice soient beaucoup plus fermes et qu'elles soient assorties d'une publicité pour que, justement, on entende et que les populations entendent que ces trafics d'animaux protégés sont graves, qu'ils portent une atteinte très profonde à la biodiversité et que si les audiences étaient publiques, on aurait effectivement cette possibilité de débattre réellement des faits, puisque là, en l'espèce, on constate que en plus l'OFB engage des moyens très importants pendant plusieurs années, souvent plusieurs années, pour faire mettre à jour des trafics qui, au final, donnent lieu à des décisions qui sont vraiment minorées. Mais on constate quand même que depuis 2020-2021, les peines sont de plus en plus graves, les sanctions de plus en plus importantes, et on a notamment des sanctions qui vont jusqu'à l'emprisonnement, puisque c'est un délit et il peut être puni d'emprisonnement. La cour d'appel de Montpellier n'a pas hésité à certains moments à punir d'emprisonnement ces trafics d'animaux. Et puis peut-être que le dernier mot, c'est de saluer d'abord le travail de l'OFB et de conseiller à tous ceux qui sont amoureux de la nature d'être vigilants quand ils sont dans les campagnes tarn-et-garonnaises pour observer, écouter les oiseaux et signaler si jamais en passant ils voient des filets quelque part, être toujours vigilants sur le fait que ça peut être un début de braconnage ou un braconnage en cours et que prévenir l'OFB à ce moment-là est une bonne chose. Et d'autant que observer les oiseaux et les écouter, on le sait maintenant, fait vieillir moins vite. Et donc développe les neurones, et donc c'est une très bonne activité à conseiller pour tous les auditeurs.
Ben c'est un très bon mot de la fin. Je vous laisse quand même vous présenter un petit peu et nous parler de votre cabinet, donc Action Avocat, en mot de la fin, allez-y.
Oui, alors donc Action Avocat existe depuis plusieurs années. Moi, je suis avocate depuis 30 ans aujourd'hui et j'ai eu à cœur de créer une structure qui non seulement s'engage dans tous les domaines du droit qui sont les nôtres, et pour ce qui me concerne, c'est plutôt des spécialités de droit civil et de responsabilité, mais également un engagement sur le plan des droits humains et auprès d'associations comme la LPO, l'ASPAS ou France Nature Environnement, pour la protection de la biodiversité.
Et bien voilà, donc nous étions avec Isabelle Schoenecker-Rossi. Merci beaucoup Isabelle, encore une fois, d'être venue dans l'émission pour nous parler de votre travail.
Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
C'est la fin de cette chronique. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivie. Je souhaite tout particulièrement remercier Sophie Orissé, Ludovic Grondin et Laurent Pampinguian de l'association Monte à Vélo et également Isabelle Schoenecker-Rossi du cabinet Action Avocat de Montauban pour leur participation. Merci encore à vous. J'en profite également pour remercier à nouveau Evan Lahaine, le stagiaire de FNE, pour m'avoir accompagné lors de la mini-chronique du Choupisson. Le mois prochain, on se retrouve pour parler des arbres et des haies à l'occasion de la fête de l'arbre de la Française. À bientôt!